Alors je crois que le sujet de la conférence qui a été donnée, c'est le combat spirituel du chrétien contre son péché. Alors, donc, il y a deux parties. Il y a d'abord le péché et ensuite le combat. Pourquoi parler du péché ? C'est une partie de la conférence que vous avez déjà entendue pour certains, pas la seconde. Pourquoi parler du péché ? Parce que nous, on n'est pas des obsédés du mal, c'est l'inverse. Nous, on est perpétuellement attirés par le bien. Ça, il est important que nous le transmettions. Notre désir, c'est le bonheur, c'est le ciel, et donc c'est le bien. Voilà ce qui nous intéresse. Et donc, quand nous, les chrétiens, nous parlons du péché, parlons du mal, c'est simplement, mais comme le moyen d'éviter ces obstacles qui ne nous mènent pas vers le bien. Ça peut paraître une évidence, ce que je dis, mais il est bon que vous l'annonciez, voyez, parce que vous savez très bien que autour de nous encore, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que plus personne n'a entendu le catéchisme, mais il traîne cette espèce d'inconscient que hein, les chrétiens, c'est toujours pour dire « fais pas ci, fais pas ça », ils sont obsédés avec les questions du mal, etc. Pas du tout. Nous, nous sommes obsédés avec les questions du bien, car nous voulons vivre, mais nous voulons vivre éternellement. Voilà. Nous savons que cette vie est éternelle et que donc elle a un grand prix et qu'il va nous falloir coopérer à ce bien, car justement nous ne sommes pas comme des plantes en pot, c'est-à-dire que on n'est pas comme des êtres sans conscience ni sans volonté. Le bien se réalisera en nous autant que nous le voulons. Voilà. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle, c'est que je suis un être profondément libre et que je choisis la vie. Je choisis de vivre. Je choisis le bien. Voilà. Et donc, dans ce chemin ardu, dans ce combat, on va voir pourquoi il y a un combat, je peux ne pas choisir le bien. C'est ça qui s'appelle le péché. Choisir le mal avec ses conséquences. C'est ça, le péché. Alors, pour choisir le bien, on a de nombreux dons qui nous sont faits. On a les vertus en nous, des vertus qui sont des forces, des puissances, des forces morales, surnaturelles, la foi, l'espérance, la charité, mais aussi les vertus surnaturelles dites morales, la tempérance, la justice, la force, et puis toutes les vertus. Donc ça, c'est ce qui est installé en nous à force de coopération acharnée avec le bien et de fréquentation des sacrements. Et puis, il y a aussi les dons qui nous sont faits par le Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit, si vous lisez Isaïe 11, vous les retrouverez facilement, vous vous souviendrez, Isaïe chapitre 11, la force, la force, la piété, la crainte de Dieu, la science, le conseil, l'intelligence et la sagesse. C'est une manière de les déterminer. Évidemment, les dons de Dieu sont infinis. Alors, ces dons nous sont départis sans cause et par Dieu, pour nous aider toujours pour aller vers le bien. Dieu est un Père prévoyant. Il ne nous a pas simplement créés en disant « bon, pourvu qu'ils y arrivent, quoi ». Dieu nous a créés en nous mettant à disposition sa grâce pour que nous y arrivions. Vous ne serez jamais tentés au-delà des grâces que vous recevez. Donc, vous aurez toujours de quoi faire le bien. En tout cas, en théorie déjà. Après, on va voir qu'en pratique, pourquoi ça peut ne pas marcher. Et puis, nous avons la carte du ciel, si j'ose dire. Je ne vais pas vous parler de cartomancie, mais c'est la carte du ciel, c'est les béatitudes. Nous savons comment ça marche. Quelle est la source du bonheur. Alors, après ces réjouissances que je viens d'annoncer, je suis obligé de vous dire très honnêtement qu'il y a quelques principes qui nous sont contraires. C'est en nous l'inclination au mal et les habitudes funestes qu'on appelle les vices. Voilà. Et tout ça produit le péché. C'est l'inclination au mal et les habitudes mauvaises, ça finit en nous par donner place au péché. Alors, qu'est-ce que le péché ? Eh bien, c'est un acte humain mauvais. Acte humain, ça veut dire, je suis donc dans la première partie de ma conférence sur qu'est-ce que le péché ? Un acte humain, c'est un acte que j'ai vraiment commis. Ça veut dire que il y a des actes qui peuvent n'être pas bons, mais que je n'ai pas commis moi-même. Et donc ça s'appelle la responsabilité. Si je commets un acte, si par exemple je suis médecin et que je vous soigne, je vous donne un médicament aux conséquences qui a une conséquence néfaste sur vous, alors que c'était totalement imprévisible et totalement inconnu, eh bien je n'ai pas péché, je n'ai pas commis le mal, même si l'acte que j'ai réalisé, c'est moi, a produit quelque chose de mal. Vous voyez ? Le péché, c'est le mal que moi j'ai visé volontairement ou que j'ai connu. Voilà. C'est ça le péché. Alors, quelle est la nature du péché ? C'est une action, une parole, un désir, en opposition avec la loi éternelle. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, si le bonheur, c'est de faire le bien, de coopérer avec Dieu, eh bien, le péché, c'est tout ce qui va nous empêcher de coopérer avec Dieu, de faire le bien. C'est donc une action, un acte. Mais attention, c'est au sens large, hein, un acte. C'est-à-dire, une pensée, c'est un acte. Un désir, c'est un acte. On va voir dans quelle mesure. Hein. C'est un péché. Et puis, une action, c'est un acte. Dans un péché, il y a toujours deux choses. Il y a ce qu'on appelle une matière et une forme, en philosophie ou en théologie. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une réalité extérieure et puis il y a une volonté. Les deux doivent être présentes pour qu'il y ait un péché. Par exemple, en fait, si le péché n'est que matériel, il n'y a pas de péché. Si, par exemple, je suis énervé et que je vous frappe, je vous donne une baffe, eh bien, c'est pas bien, je sais, voilà. Eh bien, c'est un péché. Hein, je me suis laissé déborder par ma passion. Et en raison de l'agression que j'ai estimée être la vôtre, je vous frappe. J'ai commis un péché. Mais, donc ça, il y a une matière extérieure, c'est le coup que je vous porte, mais il y a aussi une volonté de mal. Je veux vous punir, me venger. Donc ça, c'est la forme du péché. Mais je peux très bien vous mettre une baffe et ne pas pécher du tout. Hein ? Eh oui. Si, par exemple, je sens que vous devenez blanche, que vous tournez de l'œil, ça va pas bien, je me précipite et je vous colle une grande baffe, eh bien, non seulement c'est pas un péché, c'est même un acte bon. Et donc, vous voyez, pour qu'il y ait un péché, il faut donc qu'il y ait une volonté de mal. Voilà. Un petit enfant, un tout petit enfant que vous avez dans les bras et qui vous met le doigt dans l'œil, il n'a pas commis de péché. Hein, ben, il peut vous faire très mal. Il peut vous abîmer même l'œil, etc. Ça peut même avoir des conséquences. Il n'a pas commis de péché. Alors, j'ai dit un petit, parce qu'au bout d'un... Non, la conscience arrivant, il va prendre conscience de la portée de ses actes, de leur puissance, et qu'il y a une volonté de mal. Alors, Socrate dit, mais c'est pas tout à fait un auteur chrétien, hein, c'est ce qu'on appelle un pré-chrétien, Socrate dit, personne ne fait le mal ou personne n'est méchant volontairement. D'optimisme foncier chez Socrate, on n'est pas tout à fait d'accord, mais il y a quelque chose de juste quand même. C'est-à-dire que quand on fait des actes, nous les hommes, on vise quelque chose. Et souvent, quand on commet le mal, c'est qu'on se trompe. Voilà. Parce que volontairement, il est quand même assez rare qu'on veuille absolument le mal. Sauf que nous, on est persuadé que c'est possible quand même. Mais, vous voyez, il est bon quand on aborde le péché, surtout le péché des autres. Avec soi, il faut être un peu plus dur. Hein. Mais avec les autres, il faut être un peu plus doux. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans leur, on n'est pas dans leur tête. Et donc, il vaut mieux présupposer le bien que le mal. Et il faut présupposer que quelqu'un qui a fait le mal, objectivement, ben peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que... il n'avait pas véritablement une parfaite adéquation avec le mal. C'est le meilleur moyen de le traiter, en quelque sorte. Parce que notre but, hein, c'est pas de condamner les gens en les envoyant en enfer. Le but, c'est de les sauver. Et donc, si quelqu'un commet le mal, par exemple, je vous donne un exemple, je sais pas, un enfant se drogue. Ça arrive. Eh bien, alors, vous allez dire, ah ben, voilà, ça c'est mal, parce qu'effectivement, c'est un mal objectif. Hein. Se droguer, c'est objectivement un mal avec des conséquences physiques. Donc, ben voilà, bon, il est mauvais, je ne veux plus le voir, et, hop, condamné. Ben, mais c'est pas le... Parce que dans l'acte qu'il a posé, bien sûr, évidemment que c'est un mal. Évidemment qu'il s'est trompé. Mais il a peut-être visé un bien qui était... parce que la vie réelle lui était insupportable, parce qu'il souffrait trop, parce que personne ne l'aimait, parce que je ne sais pas quoi. Alors il se trompe, ce n'est pas en se droguant que ça va améliorer son cas, au contraire. N'empêche que ce qu'il vise, ce n'est pas le mal en lui-même. Lui, il vise un bien pour lui, il vise de sentir mieux. Il se trompe. C'est là où Socrate a raison. Vous voyez, on n'est pas méchant volontairement, mais on se trompe. On se trompe de bien. Il y a des gens qui ne visant pas Dieu, se trompent. Mais ils ne sont pas foncièrement mauvais, athées, etc. Simplement, ils ne sont pas rendus compte qu'on avait une âme et qu'il fallait en prendre soin. Alors, si le péché dans sa nature peut être une erreur, en tout cas, toujours, c'est un désordre. Voilà, on est bien dans une église, c'est normal, ça sonne. Donc c'est toujours un désordre, le péché. Un désordre d'abord humain et un désordre divin. Un désordre humain, c'est un bouleversement de ma nature. Car je ne suis pas fait pour le péché. Je n'ai pas été conçu pour ça. Si vous mettez du diesel dans une voiture qui marche à l'essence, ça ne marchera pas. Eh bien, le péché, ça fait que l'homme ne marche pas bien. Parce qu'on n'est pas fait pour le péché. On n'est pas fait pour le mal, on est fait pour le bien. Ce n'est pas qu'on va enfin rigoler, que ça va enfin être drôle parce qu'on va pouvoir pécher. C'est le contraire. C'est que ça va nous rendre très malheureux. Et ce n'est pas parce qu'il y a les chrétiens avec leur idée de culpabilisation, de je ne sais pas quoi. Non, c'est parce que ça rend malheureux le péché, c'est tout. Aujourd'hui, plus personne n'est culpabilisé, on fait absolument tout ce qu'on veut. Les gens n'ont jamais été aussi malheureux. Il paraît que les consommations d'antidépresseurs, ça monte. Alors, c'est pas de notre faute, là, pour le coup. Plus personne va à la messe. Oui, hein, plus personne, n'exagérons pas. Oui. Mais, en tout cas, tous les gens qui consomment, c'est pas nous. Oui. C'est pas nous qui leur avons mis une mauvaise idée dans la tête. C'est que le péché, ça rend malheureux. Je suis effaré. On conseille des gens, mais même des... Ça y est, je m'énerve, mais c'est mon caractère. Mais, hein, une jeune fille qui vient me voir il y a pas longtemps... Il ne se sentait pas trop bien, une jeune fille de seconde. Alors, elle est embêtée de me dire ça. Elle vient me consulter, puis elle me dit, je ne me sentais pas très bien, alors elle est loin de chez elle, elle est très jeune. Et à l'école, ils sont souvent quelques années, une ou deux années d'avance. Elles sont très jeunes, en seconde. Une petite fille, presque. Et donc, elle a téléphoné à sa maman, qui lui dit, bah, tu vas peut-être voir, faut peut-être que tu ailles voir quelqu'un qui va te... Hein? Alors sa maman, eh bien, sa maman, elle a téléphoné à une amie qui était à Paris, hein, qui lui dit, oh, je connais une psychologue qui est super bien, pas loin du collège, ah, vas-y, elle y va. Alors elle y va, hein, en disant, chercher un conseil, un conseil de la psychologue, au bout d'un quart d'heure, hein, elle est très forte, psychologue très forte, qui au bout d'un quart d'heure connaît déjà bien, complètement la nature de quelqu'un, ça, qui lui dit, bah, il faut coucher avec un garçon, ça va vous sentir mieux. Ben oui, c'est la réalité. Heureusement que cette fille n'est pas complètement idiote, même jeune, elle est intelligente. Elle s'est dit, je vais peut-être en parler à l'abbé, voir ce qu'il en pense. Hein? Ouais. Elle avait raison, je n'étais pas d'accord. Voilà. Hein? Alors, Dieu merci, j'ai pu l'envoyer voir une psychologue, mais qui respecte la nature. Hein? Rendez compte, dire à une jeune fille, elle a 14 ans. Alors oui, peut-être que ça va la détendre, j'en sais rien. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que ça va créer d'autres problèmes. Parce que si elles sont pas, il faut être cinglé. Le péché, c'est pas bon pour nous. Ça nous déglingue. Voilà. Donc c'est un bouleversement humain. Pourquoi ? Parce qu'on va être assujetti, hein, quand on pêche, à nos passions. On va être... Mettons que vous soyez colérique, c'est un exemple au hasard. Hein ? Bon, ça arrive, on peut avoir une nature un peu impulsive, un peu colérique. Bon, j'en connais. Alors... D'accord, ben ça c'est une nature. C'est comme ça, c'est pas un péché ça. Hein, on est comme ça. Mais si je laisse libre cours à mon mauvais penchant, mon mauvais côté, me mettre en colère, voilà. Et ben petit à petit, plus je vais me mettre en colère, plus je vais me laisser me mettre en colère, plus je vais être l'esclave de ma passion. Et puis après, je vais devenir un être parfaitement insupportable et très malheureux. Parce que je le sais parfaitement, quand on se met en colère, ça fatigue, on est vidé, après on est en colère d'être en colère, etc. C'est très mauvais. Donc, il ne faut pas se... Vous voyez, dites-vous bien que le péché, ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Et que ça va nous désorganiser, désordonner, je ne sais pas comment il faut dire ça. Et puis, pire encore, c'est un désordre divin. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas prévu ça, lui. Dieu, comme un bon père ou une bonne mère, parce que Dieu n'est ni homme ni femme, Dieu est Dieu, c'est pas un super homme ou une super femme, on n'est pas dans le panthéon grec, Dieu est vraiment Dieu. Dieu, lui, il a prévu le bien, comme tout bon parent. Il n'y a pas de parent qui prévoit que les enfants sont bêtes, idiots, moches, rateront leur vie, etc. Ça n'existe pas. Alors, le travail des parents, c'est d'accueillir les enfants comme ils vont être. Ce qu'ils voudront ou ce qu'ils pourront faire. Mais vous avez prédisposé le bien pour vos enfants. Et donc, Dieu aussi, il a prédisposé entre nous le bien. Entre vous, dans un couple, il a prédisposé le bien. Et quand vous ne le faites pas, ben ça manque. Parce que c'est ça, le péché, le mal, c'est Dieu qui manque. Parce qu'on voit toujours le péché comme une chose en soi, parce que je le réalise. Mais le péché est une négation du bien. Le mal est une absence de bien. Si au lieu d'écouter un enfant, de l'aider, je l'engueule et le renvoie immédiatement, eh bien, j'ai manqué au bien que je lui devais. C'est tout. Et la preuve de ce que je raconte, c'est que le bien construit et que le mal détruit. Si vous êtes infidèle, vous allez détruire votre couple. Ben, c'est bien la preuve que le mal est une destruction, une absence de bien, une absence d'être. Alors, je n'ai pas le temps de le démontrer plus, mais il faut en être persuadé, parce que ça, on a ça dans la tête. Nous, on est toujours des... c'est la mode de dire aujourd'hui que tout le monde est bipolaire, parce que c'est une véritable maladie psychiatrique, ça pour le coup. En tout cas, on est assez dualiste dans l'esprit, ce qui est peu juste. Donc nous, c'est toujours ou l'un ou l'autre, ou blanc ou noir. Et alors du coup, notre petit esprit en la matière, je ne sais pas si on est formé comme les ordinateurs, ou si les ordinateurs sont formés comme nous, c'est ou un ou zéro, en tout cas dans un certain langage, je ne m'aventurerai pas plus. Et donc nous, c'est bien ou mal. Mais non, ce n'est pas bien ou mal. Les choses sont bonnes. Après, je peux les dégrader. Je peux y enlever le bien qui devrait y être. Le mal n'a d'existence que parce que moi, je vais lui donner une existence. Que parce que moi, je vais le commettre. Or, je vais le commettre avec quoi ? Je vais le commettre avec moi qui suis bon. Si je reprends mon exemple, si je vous frappe, le premier rang, c'est toujours dangereux. Si je vous frappe, c'est avec quelque chose de bon, c'est ma main. Ma main est bonne parce qu'elle existe, et c'est mon corps, il est bon. Et puis en plus, Dieu a prévu qu'il était fait pour bénir, pour s'ouvrir, pour vous aider, pour vous... Voilà, si je vous frappe, je donne à la réalité bonne qui est ma main et mon être, eh bien du mal, c'est-à-dire l'absence de bien que j'aurais dû faire. Voilà. Alors, je ne m'aventure pas plus parce que c'est déjà pas mal. Les péchés, on peut les classer ceux de multiples manières. Il y a, selon leur objet, par exemple, il y a les péchés spirituels, les péchés charnels. Juste en passant, les plus graves, c'est les péchés spirituels, évidemment, parce que c'est plus élevé. Mais les péchés charnels nous font souvent plus honte, parce qu'ils sont grossiers, qu'on les voit tout de suite. Voyez, c'est voilà. Et donc, c'est souvent les péchés charnels seront souvent des barrages dans la vie spirituelle, parce qu'ils nous sautent au visage. Mais les plus graves, c'est les péchés spirituels. C'est l'orgueil, l'absence d'amour, c'est les plus graves. Alors, on peut les faire selon les personnes offensées, les péchés. Vous faites ça souvent quand vous faites, enfin moi en tout cas, ce que je fais quand je fais mon examen de conscience, Qui ai-je offensé ? Dieu, le prochain, moi-même. Dieu, ben, le blasphème, le désespoir, le prochain, c'est le vol, l'injure, soi, l'intempérance, la témérité, l'avarice. Bon, voilà, on peut classer les péchés. C'est, tous les classements des péchés, c'est toujours une manière pour essayer de s'y retrouver un petit peu. Vous savez, c'est l'esprit humain a toujours besoin de faire un petit peu des cases pour s'y retrouver. Parce que nous, on n'a pas un esprit qui saisit par l'intelligence tout immédiatement. Donc on est obligé de couper en petits morceaux pour mieux comprendre. Voilà. Hein, mais il faut se souvenir que le péché, c'est jamais que le mal en action qu'on a choisi. Et donc quand on fait des classements, c'est pas pour, c'est pas un but en soi, mais c'est pour essayer de mieux comprendre, savoir s'en sortir. Voilà. Bon. On peut classer aussi selon le mode de l'acte. Hein. On peut pécher, ben, c'est ce qu'on dit quand on dit le confiteur, hein, en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà. Donc là, c'est en fonction de la manière dont j'ai réalisé le péché. Je précise, parce que je n'y reviendrai pas, que péché par omission, il faut quand même faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas devenir complètement scrupuleux. Péché par omission, si par exemple aujourd'hui vous n'avez pas nourri un enfant qui pourtant est en train de mourir en Chine, que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas péché. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. C'est un acte bon de se porter au-devant des autres, etc., mais... ne vous torturez pas en disant oh là là, bah oui, parce que tous les jours il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Alors, ce qui est abominable, c'est que vous ne fassiez rien. Parce que là, vous négligez la justice. Mais la justice particulière à chaque enfant qui meurt à l'autre bout du monde, elle ne vous est pas due. Vous devez nourrir vos enfants, par exemple. Bah ça, si vous ne nourrissez pas vos enfants, là, vous péchez gravement. Hein ? Donc, avant d'aller nourrir les petits Chinois, ou les autres, hein, on va peut-être penser déjà à nourrir les gens qui sont malades, puisque même en France, on a réussi, par un tour de passe-passe abominable, à nous faire croire que donner de l'eau et de la nourriture, c'était un médicament, et que donc, comme on ne s'acharne pas sur les malades en fin de vie, ben on arrête de leur donner de l'eau, parce qu'on prétend que c'est un médicament. C'est abominable, hein. C'est la loi qu'on a votée, hein. Je suis dans l'actualité il y a un mois. Hein, c'est affreux, c'est, paraît-il, la mort la plus atroce, celle par dessiccation, mourir de soif. Voilà. Enfin, faut qu'on en soit arrivé, je pense parfois quand dans notre culture on aime à regarder avec une certaine commisération, une condescendance, des cultures asiatiques, etc., qui sont très cruelles ou je sais pas quoi, je crois que nous sommes arrivés... nous n'avons rien à envier à personne, malheureusement, sur ce plan. Nous sommes arrivés à un degré non seulement de cruauté, mais pire en plus, de cruauté qui se dit bonne. Là, c'est pire que tout. Hein. Voilà. Je ne sais pas quel sera notre châtiment, mais je pense qu'il sera grand. Voilà. On peut classer les péchés selon la cause. Le péché originel ou les péchés actuels, je ne m'arrête pas là-dessus parce qu'il faut que j'avance un peu. On peut classer les péchés selon leur gravité, péché grave ou mortel, et péché véniel. Vous allez entendre souvent que les gens vous disent « Oh, ça n'existe plus ça, le péché mortel, ça n'existe plus ça. » Bah, ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, hein. Donc, voilà, qui est, comme c'est marqué et comme l'a marqué, proclamé Saint Jean-Paul II, l'exacte compréhension du Concile mise en action. Donc, ouvrez le catéchisme de l'Église catholique et vous verrez que il y a des péchés mortels, c'est-à-dire des péchés graves que l'on a fait en pleine conscience, pleine volonté et plein désir des conséquences. Alors, du coup, c'est quand même beaucoup de conditions, mais si ça existe, vous avez mis à mort l'amitié de Dieu en votre âme. Donc, il faut vite aller vous confesser. Bah, c'est pas plus compliqué, hein. Mais oui, ça gêne les gens, mais je comprends pas. On est dans une société où on exalte la liberté et on a bien raison. Parce que ça, c'est vraiment la liberté, c'est ce qu'on a de plus extraordinaire dans l'homme. Et alors, on n'aurait pas la liberté de pécher. Ah non, le péché, non, mais on pêche pas. Ou alors si on pêche, mais c'est pas grave. Si, je peux pêcher gravement, vous pouvez quitter votre épouse ou votre époux. Vous pouvez ? Ben non, vous pouvez pas, hein, je vous le dis tout net, faut pas le faire. Mais c'est matériellement possible. Voilà. C'est moralement mauvais, mais c'est matériellement possible. Enfin, je pense qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, vous le savez que c'est possible, le mal est possible, jusqu'à la mort. On peut tuer son voisin. Ben là, c'est pareil, hein. Il ne faut pas, c'est mal, mais c'est possible. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre fin à l'amitié avec Dieu. Parce que je suis libre. Je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une plante en pot. Hein. Je fais ce que je veux, puis finalement, le Seigneur va m'attraper parce que c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Dieu m'a créé libre pour aller vers lui. Parce que l'acte de foi est un acte d'amour. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, j'ai donc ce grand pouvoir. Ça doit faire peur. Hein. Kierkegaard dit, voilà, il a écrit beaucoup sur ce que dit saint Paul, pardon, hein, avec crainte et tremblement. Il a écrit un livre qui porte ce titre. On s'approche de Dieu avec crainte et tremblement parce que c'est incroyable, on peut le perdre. On peut le perdre parce qu'en fait, on peut vraiment y coopérer. Vous voyez, ceux qui doutent qu'on puisse perdre Dieu, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience qu'on puisse l'aimer vraiment, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment coopérer avec Dieu. Ils ont une conception de l'âme humaine qui est toute petite, 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 espèce de petit singe qui fait un peu n'importe quoi, mais qui finalement n'ira pas vers Dieu. Parce qu'ils doutent de Dieu, ou ils ne le connaissent pas. Mais oui, on peut coopérer avec Dieu. Alors on peut faire enfin, c'est la dernière classification dont je parlerai avant des causes du péché, on peut classer les péchés selon une classification spirituelle, c'est les péchés capitaux par exemple, eh bien il y en a 7 aussi, c'est une manière spirituelle de classer les péchés pour essayer de savoir quelle est la source de mon péché, quelles sont les conséquences. Tout ça c'est un peu, on fait comme des médecins, hein, on fait une espèce d'analyse médicale de nos péchés pour savoir par quel bout faut les attraper puis comment on va les soigner. Ce sera la deuxième partie de ma conférence. Dernière sous-partie de la première partie, les causes du péché. Alors les causes du péché, il y en a des internes et des externes. La première cause du péché, c'est certainement l'ignorance. Alors, est-ce que c'est une excuse, l'ignorance ? C'est un peu facile quand même. Alors, vous connaissez certainement, les juristes aiment bien répéter, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si on ne vous l'a pas dit et que vous ne savez pas que... que Noël est un jour d'obligation, vous devez aller à la messe, le jour de Noël, eh bien, vous ne péchez pas. Bon, il y a quand même peu de chances que vous ne le sachiez pas. Voilà. Hein. Mais, voilà, si vraiment vous ignorez, sans péché, justement, hein, vous ignorez avec justice quelque chose que vous auriez dû faire, ben vous n'avez pas péché. Voilà. Hein. Parce qu'il faut le savoir pour pécher. On ne pêche pas par hasard. Donc, si vraiment votre ignorance était invincible, comme on dit, eh bien, vous n'avez pas péché. Mais sinon, malgré tout, souvent l'ignorance, hein, c'est un vrai péché. Voilà, c'est un vrai péché. Hein, comment va votre épouse ? Comment va votre époux ? Hein, je ne sais pas. Ah, oui. Bah, c'est une ignorance un peu coupable, hein, parce que si vous ne faites pas attention à comment va votre époux, votre épouse, c'est sûr que du coup, vous ne voyez pas le mal que vous faites ni le bien que vous auriez dû faire. Ça, c'est sûr. Bah, pas vous péchez. Hein, parce que quand on se marie avec quelqu'un, c'est que on avait normalement promis d'en prendre un petit peu soin et donc de faire un peu attention. Bah, c'est trop facile, hein, de dire « Oh, ben, je ne sais pas. Oh, ben, je sais pas. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Hein. » Voilà. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Pour les femmes ou pour les hommes, ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, donc, première cause du péché interne, c'est l'ignorance. Deuxième cause, l'aveuglement. Qu'est-ce qui nous aveugle ? Nos passions. J'ai pas pu m'empêcher. Ah, ben oui, t'as pas pu t'empêcher. C'est-à-dire que tu as laissé la passion te dominer. La montre était trop belle, je l'ai volée. Ah, ben oui, je ne disconviens pas que vous aviez un désir profond. Qui en soi n'est pas mauvais, hein. Désirer avoir une montre n'est pas un péché, mais dans l'homme, ce qui doit commander, c'est la tête. Pas ni mes passions, ni spirituelles, ni charnelles. Vous voyez. Donc, tu vois passer une belle femme. Ben, oui, très bien, c'est une belle femme. Et ben, c'est la tienne ou pas? Non, bon, ben, il ne faut pas y aller. Voilà. On a le droit d'être bouleversé, mais ça, c'est la nature. Hein. Mais le péché, c'est si moi, je choisis. Ben, c'est comme ça. Hein. Troisième cause et dernière cause interne, ce qu'on appelle la concupiscence. Un mot un peu savant. C'est la coupable faiblesse de ma volonté qui me pousse au péché. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en moi, il y a une faiblesse. Ça, il faut l'accepter. Ça, si vous n'acceptez pas qu'en vous, il y a une faiblesse, eh bien, vous n'accepterez jamais de guérir. Si, vous le savez bien, il y en a, c'est d'ailleurs le problème des maladies psychologiques ou psychiatriques, hein, c'est qu'il faut déjà accepter de les avoir pour aller voir un médecin. Parce que si... Mais non, tout va très bien. Mais même au plan physique, hein, si vous avez un trou dans le bras et que ça pourrit ou je sais pas quoi, et que vous dites, mais non, ça va bien, non, ça va aller mieux, demain ça ira mieux, ça va mieux, d'ailleurs ça va déjà mieux qu'hier, etc. Ben, donc vous n'allez pas voir le médecin. Donc, votre bras, ben, ça ne va pas s'améliorer. Donc, il faut accepter d'avoir une faiblesse en nous pour pouvoir reconnaître notre péché et pour pouvoir seulement commencer à guérir. Parce que tant qu'on n'accepte pas de savoir, eh ben, on ne peut pas guérir. Donc là, soyez à l'écoute des bons conseils de vos amis, hein, de votre époux ou de votre épouse, qui vous connaît bien. Ou d'un confesseur, ou je sais pas moi, enfin, écoutez les gens, hein, et puis réfléchissez, mais scrutez en vous. Parce que tant que vous ne trouverez pas le péché, que vous ne l'accepterez pas, vous ne guérirez pas. Mais avant ça, il faut accepter que vous soyez capable de pécher. Parce que vous avez des gens, ils sont tellement orgueilleux, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire de mal. Ah oui, bah vous, ça vous laisse rêveur, mais moi ça me désole. Mais c'est vrai, hein, y a des gens... sont persuadés qu'ils peuvent éventuellement se tromper, un problème de maths, ou oui, bon, matériellement, ils peuvent se tromper, mais intérieurement, ils sont... Non, ils sont impeccables. Hein, je me confesse, enfin, je dis « je », mais c'est... J'entends une confession, et puis, quand je vois qu'il y a une alliance, et on ne m'a pas parlé de son conjoint, je suis toujours un petit peu embêté. Je me dis « tiens, peut-être un homme ou une femme qui ne vit pas avec son conjoint, c'est possible, hein ?» Alors, je m'aventure. Vous êtes marié? Vous vivez avec votre époux? Oui. Ah bon? Alors là, les gens comprennent en général. Hein, ils ont dû oublier quelque chose. Parce que, voilà. Hein, ma femme est très heureuse avec moi. Oui, impeccable. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Faudra peut-être lui demander son avis, un petit peu. Parce que, mais ça vaut aussi pour vous, mesdames. Hein, alors donc, la concupiscence, il y en a trois degrés, si j'ose dire. Il y a la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la concupiscence spirituelle. Alors je ne vais pas trop m'attarder, c'est des degrés de faiblesse en nous. Hein. Il y a d'abord la faiblesse de la chair, ça c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Voilà. Il y avait un gros gâteau d'anniversaire dans le réfrigérateur, ben, je l'ai mangé. Voilà. Bon, ben, j'ai péché. Hein. J'ai péché d'abord par gourmandise, ensuite j'ai péché contre la justice, parce qu'un gâteau d'anniversaire, c'était sûrement fait pour quelqu'un le soir. Donc voilà. Donc, voilà, la concupiscence charnelle, j'ai pas pu m'empêcher, il avait l'air tellement bon que... voilà. Hein. Alors ça marche pour toutes les concupiscences charnelles, je vous fais pas de dessin. Voilà. Pas de dessin ou pas de comment dirais-je, de clic d'ordinateur. Hein. Je pense que vous avez compris. La concupiscence des yeux, c'est une concupiscence déjà intellectuelle, hein, c'est le désir de posséder, de regarder, etc. Ça se voit par une curiosité malsaine. Vous avez des gens qui sont toujours en train de... toujours l'impression qu'ils sont en chasse de quelque chose. Hein, toujours à la recherche de... voilà. Il faut aussi une certaine tempérance dans la vie. Un certain détachement. Voilà. Alors en nous, il peut y avoir cette faiblesse de toujours se jeter sur tout, comme ça. Et puis enfin, il y a la concupiscence de l'orgueil. Évidemment, c'est la plus dangereuse. Hein. C'est la faiblesse de l'orgueil. Ça marche toujours. Hein. Alors ça, l'orgueil, faut pas vous désespérer, parce qu'on est tous orgueilleux.